Eh bien, gros bug. Voilà, le live a entièrement bugué. J'ai mis du temps. Impossibilité de récupérer le live sur YouTube pour relancer rapidement. Impossibilité de recréer un live en reprenant les bases précédentes pour relancer. Encore un bug depuis Streamlabs. Voilà pourquoi j'ai mis du temps à revenir. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Re-bienvenue du coup au Café Critiques. On a pas mal de choses à analyser, à discuter. Il y a eu des news, des trucs assez intéressants, encore une fois, propices à l'analyse, je trouve. Je vous envoie le jingle, c'est pas pour faire redite, c'est juste que, bon, voilà, en plus c'est la structure hein, de l'émission, mais aussi pour laisser le temps, aussi et surtout pour laisser le temps, eh bien, à tous ceux qui étaient sur le live précédent, d'arriver tranquillement sur celui-ci. Bah, on se reprend tout de suite, de toute manière, ce sera un jingle court, ne vous inquiétez pas. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci, j'en ai profité effectivement pour manger un petit peu. Pas trop dur le ramadan, non, ça va. C'est surtout bon, la fin de semaine, c'est la fatigue accumulée en fait, hein. Le manque de sommeil. Sinon, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Alors, on en était. On va resaluer tout le monde hein, qui arrive dans le chat hein. DJ, Oliomono, Asmaïn, Sidonia, Benoît Claire, Genou, Asdin Félix, TKO. Max, Rémi, Nico, Rabat et tout le monde, toute l'équipe. Merci à tous. Voilà, merci d'être là. TKO nous dit, Romedy, je ne sais pas si tu as eu ma question ou même si elle était intéressante, mais je me demande si le gameplay de Helldivers clavier-souris n'est pas propice à augmenter les ventes PC. Alors effectivement, on reprend très rapidement, très succinctement la première news, les premières news que nous avons traitées dans le premier live fail. Effectivement, Helldivers 2 a atteint presque 60% des ventes sur le mois de février. Jusqu'au mois de février, du coup. Presque 60% des ventes d'Helldivers 2 se sont faites sur Steam. Sont faites sur Steam aux États-Unis. En Amérique, plutôt, pas aux États-Unis. On a des chiffres similaires en Europe, puisqu'on parle de 58% des ventes, une domination de 58% des ventes en Europe sur PC. Et on parle là de deux marchés où quand même les consoles, et notamment la PS5, sur laquelle est sorti, je vais arriver, Helldivers 2, est très bien installée, très très forte en termes de marketing, c'est la console qui se vend le plus sur ces deux marchés-là. Et malgré ça, Steam domine les ventes pour Helldivers 2. Alors, est-ce que c'est le gameplay qui fait que Helldivers 2 est un carton? Parce que, et c'est ce que je commence à lire, hein. J'en parlais, on commençait à aborder avant que le live nous fasse faux bond. Effectivement, on a un Horizon Forbidden West qui sort actuellement. Je vais essayer de vous retrouver du coup des images. Alors c'est à ce moment-là hein, où ça a bugué, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le moment où justement honnêtement, allez, hop. Fonctionne s'il te plaît. Merci. Allez, ça bug pas, ça fait plaisir. Alors, on a un, comme je le disais, Horizon Forbidden West qui a eu du mal du coup à se vendre sur Steam jusqu'à il y a 2 jours, il me semble, il y a 3 jours. le jeu n'était même pas top 50 des ventes, alors qu'il sortait dans la semaine, et on avait en face un Dragon's Dogma 2 qui se vendait super bien en précommande. C'était pas le cas d'Horizon Forbidden West. Jusqu'à hier, les précommandes se sont lancées, il a fait un gros bond, il est passé top 5, il est même maintenant top 2 des ventes de Steam, en termes de revenus, Horizon Forbidden West. Malgré cela, il reste derrière un Dragon's Dogma. Est-ce que on peut imputer cette domination de Dragon's Dogma, eh bien, voilà, Horizon Forbidden West, donc c'est les images que je vous ai montrées aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imputer cette domination au gameplay d'Helldivers 2, au style de jeu, de se dire, ok, c'est un jeu à service, c'est un jeu qui se prête mieux au PC qu'un jeu solo? Et c'est ce que je commence à lire. Et ben, vous savez quoi? Pour moi, pour moi, on est complètement à côté de la plaque si on pense cela. Puisque ce qui se passe entre Helldivers 2 et Horizon Forbidden West, parce qu'on rappelle, hein, Horizon Forbidden West, c'est un jeu qui arrive 2 ans plus tard, 2 ans après sa sortie, sur PC. Moi, ce qui se passe, c'est qu'on a un jeu qui sort Day One sur PC, et un autre jeu qui sort 2 ans plus tard, quand la hype elle est totalement morte. Voilà, j'ai fait un tweet qui a pas mal pris, hein, vous voyez, 64 000 impressions quand même, mais sinon, il n'y a pas vraiment de hype autour du jeu. Vraiment, ça y est, ça fait 2 ans, c'est de l'histoire ancienne en fait. C'est l'histoire d'hier, comme ils disent les Anglais, les Américains. Donc, et les gamers, ils s'en fichent de l'histoire d'hier. Il faut leur parler de l'histoire d'aujourd'hui. La preuve à cela, c'est que Dragon's Dogma 2, c'est pas un jeu à service. C'est pas un jeu multi. Et pourtant, c'est un des jeux, alors déjà, c'est la top vente de Steam, mais c'est aussi l'un des jeux les plus populaires actuellement sur Steam. À l'heure où on parle d'ailleurs, le jeu se classe, tac, on le met ici, pourtant c'est un jeu solo, on le rappelle, voilà, il se classe bah, d'ailleurs juste derrière Helldivers 2, et il fait 187 000 joueurs simultanés sur Steam. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui arrive Day One sur Steam. Il a fait un pic à 200 000 joueurs, mais au moment où on parle là, il est à 187 000. Si on cherche Horizon Forbidden West, alors il va falloir chercher. Hein. Il va falloir bien chercher. Peut-être que je suis passé à côté, parce que ça m'étonne qu'il soit aussi bas. Non. C'est le 43e joueur qui a le plus de joueurs... qui a le plus de joueurs simultanés, avec un pic à 27 000 joueurs. On voit quand même qu'il y a une grosse marge, hein, de progression quand on voit un Dragon's Dogma 2 qui sort quasiment le même jour, qui fait 200 000 joueurs. Donc pour moi, c'est pas le type de jeu, c'est vraiment la temporalité qui va jouer. Pour moi, on est clairement sur une temporalité. Qui décide en fait, qui fait que les jeux fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Ce jeu-là aurait dû arriver, Horizon Forbidden West, s'il arrivait Day One sur PC, ça aurait fait, mais vraiment, pour moi, ça aurait fait un immense buzz, et le jeu, il aurait été peut-être pas top 1, je sais pas s'il aurait fait 1 million de joueurs simultanés, mais quand même, ça aurait été tout autre chose. D'autant que, vous n'allez pas me dire, on rappelle, hein, Dragon's Dogma, le premier, même s'il a été bradé, on peut le trouver des fois à 4€ sur Steam, un peu partout, le premier Dragon's Dogma. Mais 10 ans plus tard, le constat était que, et ça m'avait plutôt impressionné, positivement, hein, je m'attendais pas à un tel chiffre, mais c'est vendu à 7 millions de ventes. Donc c'est pas mal, mais on est quand même loin d'une licence installée en 2017, Horizon, qui fait plus de 24 millions le premier Horizon. Horizon Forbidden West, c'est très très bien vendu sur PS5, notamment grâce à des bundles, etc. Enfin, là encore, on peut trouver aussi des critères, des circonstances atténuantes à ce succès. Pas de problème. Dans tous les cas, on voit que on est quand même, en termes de licence, en termes de street cred, en termes d'attente, on est quand même, avec Horizon, beaucoup plus haut que Dragon's Dogma. Et pourtant, Dragon's Dogma, aujourd'hui, vous le voyez, 183 000 joueurs. Horizon Forbidden West, 27 000. Ça aurait dû être le contraire, en fait. C'est juste pour moi que ça n'arrive pas day one. D'ailleurs, en parlant de gameplay, pour répondre à ta question, TKO, moi, je voulais montrer ici, j'ai joué à Horizon Forbidden West. Alors, j'ai pas joué autant que Sidonia. Alors, c'est même pas une question de autant d'ailleurs, hein. Je l'ai à peine lancé. Je vais être honnête avec vous. Vraiment, c'était pour voir ce que ça donnait graphiquement. Et bah, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable graphiquement. Alors, c'est pas pour piquer. C'est vraiment pas pour piquer les consoleux. Ceux qui ont, qui l'ont sur PS5, etc. Parce que le jeu sur PS5, ben on va se le dire clairement, hein, il est déjà magnifique. C'est déjà une des plus grandes tartes graphiques, en tout cas, que j'ai mangé dans ma vie de gamer. Tout simplement. Voilà. Je veux dire, les termes sont posés. Je sais pas, je dis pas ça pour hyper ou quoi, parce que c'est vraiment le jeu de 2022 sur PS5. Pff, c'était quand même déjà bien ouf. Et bah, sur PC, je l'ai relancé. Je voulais juste voir ce que ça allait donner. J'ai remangé cette giga tarte. Pour moi, et après, c'est vraiment sur des souvenirs, hein, parce que je l'ai pas relancé sur PS5. Pour moi, ce que j'ai vu hier en le lançant sur PC, c'était, allez, un petit cran au-dessus. En fait, pour moi, ce que j'ai vu, c'est comme si vous jouiez aux versions fidélité, mais du coup à plus de 60 FPS. J'étais à plus de 60 FPS. Voilà. Parce que j'ai vu, hein, beaucoup de gens me dire, ouais, c'est comment par rapport à la version PS5, vous l'avez, ah non, vous l'avez pas ici, regardez. Johan qui me demande, il est vraiment plus beau que sur PS5. Il y a plein de gens, en fait, qui allaient là-dessus. Ah ouais, c'est mieux que la PS5 et tout. Moi, c'était vraiment pas. J'ai une critique de la PS5, parce que le jeu est magnifique sur PS5, c'est déjà un des plus beaux jeux ever sur PS5. Mais là, en fait, le PC, la version PC, on va dire qu'elle pousse tous les curseurs au maximum, et ça permet d'avoir le jeu bah, comme les devs l'avaient imaginé, hein. Je pense que sur les, quand ils le développent sur leur PC de la NASA, c'est comme ça que ça tourne, etc. Mais ils ont fait un travail énorme sur PS5, donc si vous avez une PS5, franchement, vous n'avez pas à rougir, on n'avait pas à vous dire purée, il me faut un PC pour y jouer dans les meilleures conditions. Sur PS5, c'est déjà absolument magnifique. Voilà, pour Horizon. Et donc, par rapport aux ventes, pour moi, voilà, ça c'est le type de jeu qui devrait, selon moi, arriver day one sur PC. Et voilà, je confirme, c'est plus beau sur PC que sur PS5. Merci Christophe from Paris, from Software. Et jouer avec une DualSense, ouais, vous pouvez aussi jouer avec une DualSense sur PC. Malheureusement, les fonctionnalités DualSense sur un PC, on les a uniquement quand on se branche. Il faut brancher la manette et pas la connecter en Bluetooth. Mais voilà. Wa alaikum salam Cédric Coco, j'espère que tu vas bien mon poteau. Après le coup qu'ils ont fait Capcom, c'est pas mérité. Alors, on va revenir dessus justement. Ça fait partie des grosses news du soir. Philippe Douste Blasi. Salut Mehdi, PlayStation regarde les retours sur investissement sur PC et le ROI de Spider-Man God of War Horizon sur PC sont très bonnes tant que ça ne change pas. Il n'y aura pas de jeu solo Day One sur PC. Oh ben, on verra. Moi, j'y crois pas à ça. Pour moi, ça arrivera Day One parce que le retour sur investissement, effectivement, en fait, le sortir sur PC, ça leur coûte rien. Excusez-moi, je buvais à côté. Ça leur coûte rien, puisque on est sur des jeux qui sont amortis depuis longtemps. Un Horizon Forbidden West, il a fait toutes ses ventes plutôt au début, notamment pendant la pénurie grâce à des bundles comme j'en parlais. Derrière, c'est déjà amorti, c'est déjà vendu, on a fait tout ce qu'on pouvait sur PS5, on a mis des modes démo, des machins dans le PlayStation Premium. Enfin voilà. On a fait tout ce qu'on pouvait avec Horizon Forbidden West sur une plateforme. On l'a vendu sur cette plateforme, on a réussi à vendre cette plateforme grâce à ce jeu, voilà, grâce au bundle, etc. Même si j'ai l'impression que c'est parfois plutôt l'inverse. Hein. Le jeu a bénéficié du bundle, parce que des gens voulaient une PS5, absolument. Enfin bref. Et à un moment donné, là je parle en général, de toute manière je parle pas d'Horizon Forbidden West, on fait un portage PC. Puisque de toute manière, les consoles ces jeux-là sont développés sur PC. Les jeux tournent déjà sur PC. On prend l'exemple de Spider-Man 2, qui n'est pas sorti sur PC. Il y a des hackers qui ont des versions de Spider-Man 2. Alors effectivement, d'abord le jeu, bah il manque des textures, il manque ci, il manque ça, parce que le jeu il a pas été programmé, il a pas été packagé au final pour tourner sur PC. il a été packagé sur des dev kits PS5 pour tourner sur PS5. Donc ce package, comme il n'existe pas sur PC, effectivement il manque des choses. Il manque des assets, il manque des textures et tout. Et on voit qu'il y a des hackers. Alors encore une fois, hein, moi j'ai même pas touché à ce truc là, j'ai pas téléchargé, j'essaie de même pas regarder. En tout cas ce qui est sûr, c'est que je ne partage pas, je ne retweet pas et tout le travail, parce que je vois des trucs, hein. C'est surtout sur Twitter en fait, hein. Je clique pas sur les vidéos YouTube. Je veux donner absolument aucune force à ça. Là, je m'en sers juste pour appuyer mon propos, pour dire que ces jeux-là, en fait, ils tournent déjà sur PC. C'est juste derrière faire de l'opti, etc. Faire un vrai package PC pour que on ait les textures qui manquent, etc. Et puis faire de l'opti pour que le jeu tourne à peu près correctement sur toutes les configs qu'on a sur PC. On en a plein. On a autant de configs que de joueurs PC. Donc voilà en quoi sert l'opti. Et donc tout ça pour des devs pro, en fait c'est des trucs que tu fais à moindre coût. C'est pas le budget de la création d'un jeu. Où là ça peut monter très haut, notamment dans la série Horizon, hein, puisque ça, on sait que ça a dépassé les 200 millions. Et donc faire ce portage, ça va pas coûter beaucoup d'argent. Derrière tout ce qu'ils vendent sur PC, même si c'est pas beaucoup, c'est totalement bonus en fait. Puisque ça a coûté quasiment rien, tu vends quelques jeux, c'est bonus. Donc je comprends ce que tu veux dire au niveau du ROI, du retour sur investissement, mais derrière, ils voient un Hellblade 2. Le retour sur investissement, il est tout autre. Alors oui, je dis pas que tous les jeux auront, parce que c'est un succès un peu phénoménal, hein, et au sens littéral du terme, hein, c'est un phénomène, Helldivers 2. Donc je dis pas que tous les jeux auront le succès d'Helldivers 2, mais quand ils voient Helldivers 2 et qu'ils réfléchissent comme on vient de le faire aux raisons de ce succès, notamment sur Steam, eh bah à un moment donné ils vont se dire ouais, ok, le retour sur investissement il est bon parce que c'est du bénéf, c'est une ligne verte on va dire, c'est pas une ligne rouge, sauf que la ligne verte ça peut être une ligne goldée quoi, on peut la rendre dorée si on sort nos jeux Day One. Donc pour moi ça arrivera Day One, hein. Et je suis content parce que déjà de base quand je disais ça, ça m'attrapait ma veste. Ouais, non, tu dis n'importe quoi, machin. Maintenant qu'ils font ça, sur certains jeux, notamment multi, oui, mais non, mais on parlait pas du multi. Il y a déjà des gens qui m'ont dit ça. Hein. J'ai mis en signé. Ça y est, je commence à être salé. Parce que tout le monde se moque. Et derrière, ça retourne sa veste. Bah là, j'ai mis en signé. Non, mais on parlait pas des multi, on parlait que des solos. Eh bah, j'ai mis en signé, vous allez voir. Que quand les jeux vont arriver Day One sur les jeux solo vont arriver Day One sur PC, je vais pas vous rater. Je vais vraiment pas vous rater. Je vais être intenable. Hein. Franchement, il va falloir bloquer ma chaîne tous les jours. Je veux dire, je vous l'avais dit. Donc voilà. Et Marc et Mathieu hier a dit qu'un portage PC c'était pas si peu coûteux qu'on croit. Alors, va falloir que je regarde cette vidéo. Mais je suis pas en train de dire que c'est gratuit. Hein. Mais c'est quand même très peu coûteux quand on le... Oui, franchement, faut le dire. Moi, je dis les termes, c'est très peu coûteux quand on le met en face du coût global d'un jeu vidéo. Tu prends PlayStation... Alors, non, mais Rockstar, c'est... Je termine juste mon... Parce que j'ai vu un autre commentaire en même temps. Tu prends PlayStation et les coûts de dev de certains jeux. Quand tu les mets face aux coûts d'un portage, mais franchement ça a rien à voir. Je reprends encore une fois, hein, l'exemple de Spider-Man 2, c'est un jeu qui tourne déjà à peu près, qui se lance sur PC. On a des gens en slip sur Discord qui ont mis des trucs et tout, et le jeu, il est, la première partie du jeu elle est jouable, c'est ce que j'ai vu tourner. Donc c'est pas 100 millions, je vous dis pas que c'est gratuit. Mais c'est pas 100 millions. Un portage sur PC. Donc forcément, même si ça vend pas beaucoup, c'est tout de suite une ligne verte en termes de qu'est-ce que ça nous a coûté, qu'est-ce que ça nous rapporte. C'est tout de suite une ligne verte. Contrairement à un développement de 200 millions, le jeu, qu'est-ce qui nous a coûté 200 millions, qu'est-ce que ça nous rapporte pour que la ligne rouge, elle devienne verte, il va falloir en vendre des jeux. C'est pas le cas sur un portage PC. Donc c'est pour ça que le retour sur investissement, oui, il est toujours bon. Mais par contre, Par contre, il y a moyen de le maximiser, ce profit. De l'optimiser. Mais il va falloir que je regarde quand même cette émission, parce que ça m'étonne, hein, de lire ça. Voilà, Steam prend 30% des joueurs PS sur PC, c'est des joueurs qui prennent pas les services PlayStation. Ça serait une mauvaise idée. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vaut mieux prendre 70%. Encore une fois, on reprend Helldivers 2. Et puis au-delà de ça, ça fait une émulation. Hein. Parce que là, on parle de 60% des ventes sur Steam de Helldivers 2. Alors faut pas se dire que 40% de 8 millions l'auraient acheté dans tous les cas sur PS5. Pas du tout. En fait, la sortie sur PC a permis une grosse émulation. Voilà, une grosse pub autour du jeu qui fait que des gens ne possédant pas de PC ou possédant un PC mais préférant y jouer sur PS5 l'ont acheté sur PS5. Donc la conjoncture des deux fait que ça permet d'avoir un cercle vertueux qui fait que tu vas vendre beaucoup plus de jeux. Donc même ça en fait c'est pas à prendre en compte. Donc 70% vaut mieux vendre 70%. Vaut mieux prendre, excusez-moi, 70% de plus de 4 millions de ventes que vendre et prendre 100% OK de 4 millions de ventes on va dire que c'est 50-50 sur PS5, mais en fait non, ils auraient même pas vendu 4 millions sur PS5. Ils en auraient vendu beaucoup moins s'il y avait pas eu l'émulation PC. C'est clair. Ensuite, moi, on part sur du 30%, c'est pas grave. Ensuite, Helldivers 2, alors je suis pas sûr, hein, mais sur PS5, il y a aussi beaucoup, même si le marché du démat est aujourd'hui majoritaire, hein, même sur console, mais sur PS5, il y a aussi beaucoup de, comment dire, le physique fait de la résistance sur PS5. Et il faut savoir que sur le physique, PlayStation, il perd bien plus que 30%. Sur un jeu physique. Sur un jeu physique, ils perdent 50% en gros. Puisque celui qui va mettre le jeu en rayon va prendre autant. Donc autant la même part que PlayStation. Donc ils vont prendre 50%. Donc vaut mieux prendre. Et sur PC, cette question ne se pose pas, parce que sur PC, le physique n'existe pas. C'est que du démat. Donc quelque part, ils sont presque à du 70% quand tu fais la part physique démat. On va dire physique c'est 50%. Et bah sur PS5 ils sont déjà presque à 70%. Donc la version PC et la version Steam, c'est exactement ça. Elle rapporte bien plus qu'un jeu physique. Et donc finalement, oui voilà, tu m'étonnes, j'ai acheté FF7 Rebirth sur Amazon pour 63€. Voilà, exactement. Alors que c'est un jeu qui est conseillé à un prix de vente à 80 balles. Si Amazon le vend 63, ils font pas non plus. C'est pas non plus un produit d'appel comme le font les grandes surfaces en France. Donc ils vont quand même prendre de l'argent dessus, sur ta vente à 63€. Donc imagine ce qui revient à peine dans les poches de Sony. Vaut mieux dire ok, je donne 30% à Valve. Et encore, moi je pense que PlayStation, parce que 30% c'est moi qui m'émaise, hein. C'est le mec tout seul, comme je disais tout à l'heure, en short sur Discord qui fait son truc. Moi je me suis... Oui, ils me tapent au cou, ils prennent 30%. Par contre, pour PlayStation, il y a moyen que les deals ils soient un peu plus avantageux. Hein. T'appelles Gabe Newell, peut-être pas pour Helldivers 2, mais si demain j'ai le troisième opus de Horizon, ou le troisième opus de God of War, Ok, salut, mec, j'ai God of War, je vais le mettre Day One sur Steam. On se fait un petit deal. Allez, 18%. Donc tu vois, tout ça c'est et Gabe Newell, tu vois. Enfin, j'ai dit Gabe Newell, pardon. Mais je veux dire la branche marketing de Steam en fait, c'est aussi avantageux pour eux d'avoir ce type de jeu. Et très clairement, moi j'en suis convaincu, ce genre de jeu Day One sur Steam, non seulement ça peut faire un buzz énorme, je pense que ça explose les records, très clairement, et ensuite, cette émulation, elle sera favorable aussi pour ta plateforme. pour les jeux qui sortent sur PS5. Donc en fait, moi, je vois vraiment que du positif à sortir les jeux Day One sur PC. Mais je suis content d'avoir cet avis en contradiction, hein, de l'avis général, parce qu'encore une fois, au moins, quand ça va se faire, et ça va se faire, eh bien, je pourrais vous dire, je vous l'avais dit. Et ça va être cool. Ce moment-là, en fait, le plus dur, c'est l'attente entre pour arriver jusqu'à ce moment-là. Mais dès qu'on y sera, ça va être cool. Ça va être très 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 cool. Voilà. Et je voulais aussi également transitionner sur Dragon's Dogma 2, puisque je parlais de record. Je vais vous retrouver justement les trucs les plus populaires là. Voilà. Donc à l'heure actuelle, nous avons 187 000 joueurs sur Dragon's Dogma 2, un pic à 200 000 joueurs. Il faut savoir que Dragon's Dogma 2 est officiellement le jeu solo de chez Capcom qui a réalisé le record de joueurs simultanés sur Steam. À l'heure où on parle, Dragon's Dogma 2 est le jeu le plus vendu sur Steam actuellement, hein. Il lead les charts. C'est le boss. Et c'est à peine sorti hier, c'est déjà le jeu qui obtient, enfin, le meilleur Steam Concurrent Player, là, les joueurs simultanés sur Steam, pour un jeu solo Capcom. Resident Evil 4 Remake est déjà dans le rétro. Resident Evil 2 Remake, tous les jeux Capcom, hein, absolument tous les jeux Capcom, solo, sont derrière Dragon's Dogma 2. En fait, pourquoi on précise solo? Parce qu'il y a le mastodonte Monster Hunter, qui est quand même un peu plus haut. D'ailleurs, je sais pas, la marque de Monster Hunter est où, pour savoir ce qu'ils ont à rattraper pour le faire. Je pense que dans une conjoncture différente, Dragon's Dogma 2 avait les moyens, même en étant solo, de dépasser cette marque de Monster Hunter, même si je ne sais pas encore où la placer, mais je vais regarder ça tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que ouais, on est sur 330 000 joueurs. Alors il y a moyen qu'ils les fassent, hein. Hein, je vous le remets là, Monster Hunter World, 330 000. La marque record de Capcom, c'est 330 000 joueurs. Tac, Dragon's Dogma, il en fait 200 000. Voilà. Je suis convaincu que Dragon's Dogma 2, même en étant solo, aurait pu dépasser cette marque et être record sur le sujet. Le problème, c'est que Dragon's Dogma 2 se mange une sauce absolue et, selon moi, méritée. Alors déjà, premièrement, pour l'aspect technique. Le jeu est très mal optimisé, je vous l'ai dit dans mon test, fuyez-le pour l'instant. Moi, ce que je fais d'ailleurs actuellement, c'est que je passe à autre chose ce week-end. Ça me permet de gagner du temps de jeu sur d'autres jeux. Je vais vous dire à quoi je vais jouer. C'est lié aussi à une des news. J'attends juste que le jeu il soit parfaitement optimisé, parce que j'ai une config qui pourrait faire tourner, mais très facilement, le jeu en 60 FPS en 4K. Le problème, c'est que, et je vous l'ai dit, hein, vous rappelez quand on a fait l'émission sur la PS5. Je vous l'ai dit avant même Digital Foundry, parce que maintenant que Digital Foundry a fait sa vidéo, je vois beaucoup de gens, les élitistes du jeu vidéo là, dire oui, mais le jeu est limité par son CPU. Alors qu'ils n'en savaient pas, ils en avaient pas la moindre idée, hein, avant Digital Foundry, mais maintenant qu'il y a Digital Foundry qui a parlé, bizarrement tout le monde devient spécialiste et tout le monde comprend ce qui se passe. Pour ma part, c'est pas pour faire le mec qui vous l'avait dit, mais je vais faire le mec qui vous l'avait dit. Quand on a fait l'émission sur la PS5 Pro, et qu'on a dit justement, on a vu ensemble que et c'était assez décevant que le. Désolé. Que le processeur ne changeait pas sur la PS5 Pro. Je vous ai dit que sur certains jeux, en fait, le processeur de la PS5, il est bien. Il est déjà très bien. C'est un processeur 8 cœurs taillé pour le gaming, il n'y a pas de problème. Et sur la PS5 Pro, du coup, il dispose d'un mode boost qui va enfin pouvoir faire monter la fréquence de 10%. Et donc, je vous avais dit que pour la plupart des jeux, en fait, ils n'étaient pas limités par le processeur. Et donc, ils vont pouvoir bénéficier d'une puissance maximale graphique, du GPU plutôt, qui va permettre du coup de mieux faire tourner les jeux. Moi, ce que je vous avais dit, c'est que sur certains jeux, il y en a pas beaucoup, et je vais vous en parler d'un demain, j'étais encore sous embargo, je parlais de Dragon's Dogma 2, ensuite dans mon test, je vous l'ai dit, au niveau du CPU, malheureusement, le jeu, en fait, il met à genoux. Il met à genoux tous les processeurs. Parce qu'en fait, il fait passer énormément de systèmes. Et en plus, depuis, c'est devenu même une news officielle, hein, c'est même pas une analyse de Digital Foundry. Capcom le disent, voilà, on a mis trop de systèmes, on a placé trop de systèmes sous le calcul du CPU. Ce qui fait que, très rapidement, le bottleneck, c'est le CPU. Et donc, moi je me suis amusé, hein, au début je comprenais pas trop. J'en avais parlé à, bah voilà, à ceux, en privé, quoi. Le jeu, j'avais beau le mettre en low, le faire tourner en 480p, je vous en ai parlé dans mon test, ou bien le mettre en 4K, en tous les settings au max, framerate, il bougeait pas. Pourquoi? Parce que ce qui me le bloquait, mon framerate, c'était le CPU. Et donc, l'optimisation est dégueulasse. Et vous le savez, les joueurs PC, généralement, la plupart, en fait, ils mettent jamais ils notent jamais les jeux sur Steam. C'est très rare. Quand ils le notent, en masse, en tout cas, c'est qu'il y a un problème. Et là, il y a un problème. Ça veut dire que les gens notent en masse. Et donc, on a des reviews qui sont très négatives sur Dragon's Dogma 2. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, parce que sur Steam, il y a vraiment, vous savez, des catégories, hein. Négative, très négative, mitigé, etc. Je sais pas si on est passé à l'heure où on parle sur du très négatif. Je vais regarder ça. Steam Dragon's Dogma. En tout cas, c'est pas fameux. C'est pas fameux parce que, comme le disait le chieur dans le chat, l'optimisation est catastrophique. Alors on est sur du moyen. On est actuellement sur une optimisation, des évaluations qui sont moyennes. Voilà. Donc c'est remonté parce que dans la journée j'ai vu que c'était dans le négatif. Bon bah c'est bien. En attendant, moi je pense que il y a beaucoup de, pour moi, je m'attendais vraiment à une catastrophe, voire moyenne. Pour moi il y a beaucoup de fanboyisme derrière. Et on va revenir là-dessus, sur cet aspect-là. Pour moi il y a beaucoup de fanboyisme. Je pense que le jeu, il s'est fait démonter pour son aspect technique à juste titre, parce que c'est le traitement qui est réservé à tous les jeux PC qui sont cassés techniquement. Et je pense qu'il y a eu vraiment, parce qu'il y a une grosse communauté, hein, Dragon's Dogma, il doit y avoir eu une mobilisation des fans pour faire remonter ce truc-là. Parce que je vois pas comment ça peut remonter sans un patch, en fait. Franchement, quand le jeu est patché, j'ai pas de soucis. Je vois bien le jeu monter. Mais je pense que là ça a été review bombé, mais dans l'autre sens. Et c'est injuste parce qu'il y a beaucoup trop de fanboyisme autour de ce jeu-là, parce que au-delà de l'aspect technique, on a également un aspect pay to win dans ce jeu. Et en plus, j'ai oublié de vous en parler dans le test. Enfin, il me semble, je sais plus si j'en ai parlé, et pourtant je l'avais noté. Je l'avais noté parce que il y a des trucs qui sont mais vraiment catastrophiques. On pense parce que vous allez voir la liste des je vais vous la mettre, en fait. Je vais tout simplement vous la mettre. C'est immonde. C'est la liste est immonde des microtransactions qu'on peut avoir dans ce jeu-là. Voilà. Je vous la mets tout simplement, comme ça vous allez voir, je vais pas parler dans le vide. Voilà, vous pouvez avoir 2500 cristaux de faille. Alors les cristaux de faille à dépenser par-delà de la faille. Donc en fait, les cristaux de faille vont vous permettre d'acheter de louer plutôt des pions. Donc en fait, dès le début de jeu, vous n'aurez jamais 2500 cristaux de faille en début de jeu, mais dès le début de jeu, si vous payez ça à 4,99, vous allez pouvoir enrôler un pion de très haut niveau et vous allez rouler sur le jeu. Voilà, pay to win. Moi, ce qui m'a vraiment vraiment énervé, alors les pierres de réveil, ça permet, en fait, quand on meurt, d'avoir une seconde chance. Bon, ok, 99 centimes, une pierre de faille, ouais, pas ouf. Les portal cristal, ça je vous en ai parlé dans le test, vous savez, c'est dans le jeu, il n'y a pas vraiment de fast travel. En fait, il y en a un, mais il est très complexe à utiliser. Et vous pouvez avoir ce portal cristal là qui va vous permettre d'avoir un portail portatif. Désolé, ça fait beaucoup de portes. Un portail portatif, donc transportable, que vous pourrez placer un peu partout dans le jeu. Encore une fois, petit truc un peu... Mais ça, vous pouvez l'avoir in-game. D'ailleurs, tout ça, vous pouvez les avoir in-game. Mais c'est juste que c'est du pay-to-win. C'est un peu comme NBA 2K, quoi. Si je veux tout au début, je peux. Mais alors, le plus catastrophique, c'est ça. Non, c'est pas les 1500 cristaux de faille. Tac, non, c'est pas ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Peut-être qu'il est même plus dans la liste. Pierre de réveil, portail cristal. Je sais plus, je l'ai vu tout à l'heure, mais c'était les transpires. Mais quelle catastrophe! Les transpires, en fait, c'est la denrée qui va vous permettre d'utiliser le fast travel. Et alors, en jeu, j'ai essayé. Vraiment, j'ai voulu utiliser les transpires pour faire du fast travel, et il y a ce sentiment, non, faut que je le garde pour plus tard dans le jeu, je vais en avoir besoin. Du coup, tu l'utilises pas, c'est une denrée mais vraiment très très rare, que vous trouverez qui coûte cher, hein, qui coûte 10 000 crédits, et en fait, tu peux même pas farmer et en acheter, parce qu'en fait, les vendeurs, il va falloir aller dans chaque ville, et chaque vendeur n'en vendra qu'une, maximum deux. Au final, j'en ai dans mon inventaire, j'en ai trois. Mais t'as pas vraiment envie de les utiliser. Et ben honnêtement, là, on te pousse très clairement à les acheter et à pouvoir faire ton fast travel un peu plus tranquillement. Et puis t'as des trucs complètement dégueulasses. Hein, je parlais d'NBA 2K, mais genre changer la personnalité des pions, l'éditeur de personnage. Voilà, tu peux rechanger ton personnage grâce à l'art de métamorphose. Alors oui, j'entends que toutes c'est en fait tout ça c'est pas exclusif à du pay to win, c'est pas juste tout ça n'est pas exclusif à l'ACB, je l'entends, j'ai aucun problème avec ça, c'est vrai. Par contre c'est présent, et moi je sais qu'il y a plein d'items là-dedans que j'ai galéré pour les avoir, et en fait t'as tellement pas de temps, c'est tellement, enfin, c'est même pas une question t'as pas le temps, hein. C'est tellement un jeu qui est difficile à parcourir que c'est le genre de truc où on te pousse à craquer et dire purée, vas-y, c'est bon. Par exemple, ça là, ça c'est horrible. C'est horrible, clé de geôle fragile. En fait, des fois, tu peux finir en prison dans le jeu. Et donc, on peut te permettre, si tu galères à sortir de la prison, et bah t'achètes une clé pour 1€ qui se casse une fois que vous l'ouvrez. Obtenez une clé de la geôle, compte tenu de sa conception rudimentaire, elle ne pourra servir qu'une seule fois. Et ça, je l'ai eu, cet item, hein, en jeu. Je l'ai eu, effectivement, en jouant. L'art de métamorphose, par exemple, l'exemple est parfait. Moi, j'ai pas voulu. Moi, je suis très content de mon pion, je voulais pas le changer. Gags, il voulait absolument le changer. Il a joué, mais peut-être, je sais pas, 20-30 heures, il trouvait pas. Comment on fait, j'ai pas trouvé comment changer et tout. Il y a un éditeur de personnages où faut payer, qui coûte mais extrêmement cher, hein. Tu veux changer de coupe de cheveux, c'est 10 000 crédits ou 25 000 crédits, c'est n'importe quoi. Et il me disait, mais purée, comment on fait, moi je veux pas changer de coupe de cheveux, je veux changer vraiment la physique de mon pion. Et en fait, il y a un bouquin que tu trouves dans la capitale, c'est un sorcier qui se trouve à côté d'une grosse pierre de stèle, bref, il est un peu caché. Très clairement, il est un peu caché. Gags, il l'avait jamais trouvé. Il est tellement caché qu'il l'avait jamais trouvé. Moi, je l'ai trouvé, je lui ai envoyé la solution. Ce truc-là, même si j'en avais pas besoin, je lui ai dit, écoute, tu trouves un bouquin qui s'appelle Art de Métamorphose, qui va te permettre ensuite de changer tout ça. Mais donc, Gags, si après 20-30 heures, il n'avait pas trouvé, il se dit, purée, moi, je veux vraiment changer de personnage, eh ben, ça coûte 1,99€. C'est catastrophique. Et donc, c'est pour cette raison que je ne comprends absolument pas. En fait, il y a vraiment un deux poids deux mesures dans le jeu vidéo. Je comprends vraiment absolument pas que les notes soient, les évaluations soient montées. Je veux bien voir les trucs. Mais bon, je veux pas lire tout en fait, je peux pas, mais j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est typiquement le genre de jeu qui devrait partir avec une évaluation très négative et qui avec le temps, ça remonte parce qu'il le mérite, mais en l'état, un jeu pay to win, un jeu cassé techniquement sur PC, en fait, il a tous les arguments pour se faire démonter sur Internet. Et là, on est juste sur ouais, c'est moyen. Ouais, c'est moyen, 42% des 18 000 utilisateurs pour ce jeu sont positives. Ouais, donc 58% négatives. Et ça, pour moi, c'est la marque d'une mobilisation d'une communauté, review bombing, dans l'autre sens. D'ailleurs, cette communauté, c'est logique qu'elle se retrouve avec le jeu et qu'elle soit en capacité de faire ce review bombing à l'envers, puisqu'ils sont fans, donc ils l'ont acheté le jeu. Sur Steam, il faut avoir acheté le jeu. Et donc, sur un jeu où, qui demande, mais je sais pas combien de dizaines d'heures, t'as déjà des gens qui arrive à te faire une review positive. Moi, à l'heure où j'en suis, j'ai pas pu faire de review sur Steam. Hein. J'ai pas mis de note, pour cette raison que j'ai pas mis de note dans la vidéo que j'ai fait. Moi, j'en suis sûr. Et pourquoi j'en suis sûr? Parce que tous les fanboys là, ce que j'appelle les élitistes du jeu vidéo, j'ai revu mais plein de tweets de gens qui défendent ce truc. Fighting Cowboy, c'est quelqu'un que vraiment j'estime beaucoup. Vraiment, en termes de taf, c'est un youtubeur américain, ou anglais, je sais plus d'ailleurs, qui nous met ça. Donc j'ai plus de 100 heures sur Dragon's Dogma 2, j'ai pas eu besoin de la moindre microtransaction. Bah effectivement, le marché, le magasin des microtransactions était fermé hein, quand on y a joué. Donc super, Fighting Cowboy, encore une fois, t'es pas sérieux. Changement de personnage, équipement pour camper. Pierre de réveil, les trucs, les cristaux là pour le voyage rapide, j'en ai pas eu besoin. Tout ça, je l'ai obtenu juste en jouant. Littéralement, j'ai juste joué. Vous voyez, j'ai juste joué, j'ai tout eu. Mais excuse-moi, t'as joué 100 heures, mec. Et je veux bien hein, qu'on tous ceux qui prennent Dragon's Dogma, c'est pour s'y investir. Je veux bien. Mais le design économique de ce jeu fait que à un moment donné, on va avoir le seum. On va se dire, purée, mais moi, combien de fois hein, je me suis dit, non, mais j'ai juste envie d'aller voir dans cette ville, parce qu'en plus, le jeu, il est bien, en termes de quête, en termes d'histoire principale, il est super bien designé, puisque on te met pas un point sur la map. D'ailleurs, moi, j'ai viré la map et tout, donc c'est vraiment, faut aller découvrir, faut aller parler avec des gens, voir ce qui se passe, etc. Et des fois, moi, enfin, au niveau de la quête principale, je suis bloqué, je sais plus quoi faire. Je me dis, bon, j'ai juste envie d'aller voir dans cette ville. Je pense que j'ai oublié un truc. Sauf que la marche pour aller dans cette ville, déjà, il y a que de la marche. Tu peux rien faire d'autre. Elle dure 1 heure, 2 heures. Purée, je vais faire 1 heure de marche juste pour. Et en plus, c'est pas, elle dure 1 heure parce que le monde est beau, le monde est grand. Tu vas marcher, ça va être cool. Non, non. Tu vas aller 1 heure, tu vas marcher 1 heure et c'est bloqué. Enfin, en fait, c'est juste à côté, mais tu pourras pas avancer parce que t'auras des combats toutes les 30 secondes. Combat, combat, combat. Et dans ce jeu, tu peux pas fuir, hein. Enfin, tu fuis, mais les ennemis te suivent. Jusqu'à la mort. Donc, il va falloir te battre. Et plus tu fais ça, enfin, une fois, ça m'est arrivé, mais j'étais à 2 doigts de supprimer ma partie, hein. C'est-à-dire que j'ai fui tous les ennemis. Sauf que, à force de faire des rencontres d'ennemis et de les fuir, j'avais une meute derrière. C'était une manifestation, CGT. Je me retourne. Il y a 73, ennemis. Bah, ils m'ont démonté. Et ils te démontent, et en fait, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de checkpoint, hein, quand tu te fais poursuivre. Ça veut dire que je me retrouve au tout début, je dois me retaper l'heure de marche. Oh! Quelle catastrophe! Et à ce moment-là, j'avoue, j'ai utilisé une transpire. Et derrière, tu vois, t'as peur, hein, tu te dis, je l'utilise, mais peut-être que j'en vais en avoir besoin plus tard. Sentiment est vraiment horrible. Et donc, très clairement, si j'avais pu, j'avais vu le magasin, j'aurais peut-être craqué, hein, j'aurais peut-être, bah, allez, c'est 99 centimes. Bah, allez, je suis faible des fois. Il y a moyen que je craque. Le jeu est pensé pour que tu craques. Donc Fighting Cowboy, excusez-moi, ça c'est les fans, hein, les fanboys, les machins, excusez-moi, mais vous pouvez pas défendre ce truc. Vous pouvez pas défendre ce truc, c'est pas possible. Donc là, ça c'est malhonnête, ok, t'as 100 heures, Cowboy, très bien, t'as 100 heures, mais t'as fait ça, justement en fait, la réponse, la problématique elle est dans ton tweet, c'est parce que t'as 100 heures. Et le jeu est pensé pour que tu craques. Et toi, t'as pas craqué parce que il y avait pas de magasin. En plus de ça, l'autre point qui me paraît un peu compliqué, hein, c'est ce que j'ai mis ici, c'est que le Fighting Cowboy là, mec qui défend déjà ses micro-transactions honteuses, mais c'est le mec qui était physiquement présent au Capcom Highlight. Ils l'ont mis là. Ils l'ont appelé, voilà, ils lui ont dit viens, parle. Ils ont mis son pion officiellement dans le jeu. Et derrière, il défend comme ça le jeu et Capcom. Franchement, moi je pense pas que il y ait conflit d'intérêt, mais quand même, tu devrais pas la ramener quand c'est comme ça. C'est mon avis, hein. Je pense que tu devrais pas la ramener. Donc, encore une fois, pour un jeu aussi long, vous voyez, il parle de 100 heures, avoir déjà autant de critiques positives sur ce jeu sur Steam, pour moi, c'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est du review bombing à l'envers. Et on devrait s'offusquer de ça, comme quand c'est fait dans l'autre sens. Voilà. Parce qu'il y a des jeux qui n'ont pas eu cette chance, malheureusement. Y a des jeux qui n'ont pas eu cette chance, qui sont faits démonter sur PC. Donc ce jeu-là, en fait, il avait tous les ingrédients pour se faire démonter également. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Ah oui, l'autre point aussi qui m'a fait super marrer. Vraiment, ça, fallait que je vous en parle. Après, je reprends vos messages. Ce truc-là, mais c'est super marrant. Puisque Itsuno, le boss de Dragon's Dogma, nous a dit que il n'aimait pas le fast travel. En fait, il disait que le fast travel, c'était en fait le témoignage qu'un implémenter un fast travel dans ton jeu, c'était le témoignage que ton open world était ennuyant. Franchement, là-dessus, j'étais plutôt d'accord avec lui. Sauf que sa solution à ça, c'est d'implémenter du fast travel, il n'y a pas de problème, mais c'est 2,99€. Et ça, c'est juste pour le placer, ton fast travel. Si tu veux l'utiliser à chaque fois, ton fast travel, ce sera 1€ à chaque fois. Donc, c'est un peu problématique, je trouve. Mais vraiment, sur Internet, ils ont pris très cher, hein. Je vous ai partagé aussi cette review d'un mec sur Steam. Il m'a fait marrer. Il a dit, ouais, Capcom, je vais faire comme vous. Je vous vends. Il a mis une review négative. Il a dit, je vous vends ma review positive pour 1,99€. Comme un DLC, quoi. Voilà. Et puis après, moi, enfin vraiment, les fanboys là de Dragon's Dogma qui vont se mobiliser pour faire remonter le truc, pour défendre les microtransactions, genre là pour le fast travel d'Itsuno, hein, sa fameuse sortie. Donc il y a le truc de vous avez vu là le comment dire? Aïe, 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 je vais réussir à parler. Je vais réussir à parler. Oui, la capture d'écran que je viens de vous mettre. Vous avez vu? Regardez, je vous la remets. T'as des Monsieur Plouf, je sais pas c'est qui, hein. Honnêtement, c'est pas pour l'attaquer. Je sais pas c'est qui, mais il semble être très connu. Ce qui m'énerve dans cette situation, c'est que je pense qu'Itsuno est sincère dans sa démarche. C'est pas lui qui décide de monétiser ça, mais c'est lui qui passe pour un débilos alors qu'il n'y peut rien. Et tous les fans sont là à défendre ça. Tous les fans sont là à défendre ça. Oui, mais non, mais oui, mais à la fin, le jeu, il sort. Si Tsuno il est pas d'accord avec ça, il sort pas ce truc. Enfin, c'est trop facile. Hein. C'est trop facile comment dire, de blâmer l'Akatsuki, entre guillemets. C'est l'organisation de l'ombre, c'est de leur faute. Les economic designers, c'est de leur faute. C'est pas les créateurs. Non, mais c'est ça, c'est pas Kojima. Kojima, il voulait pas ça. Kojima, c'est le boss. Bon, j'ai rien à voir avec Kojima ici, hein, mais vous voyez, je prends ces exemples de gens qui sont fans à outrance et qui défendent tout et n'importe quoi. Parce que ce tweet-là, en fait, tous les fanboys de Dragon's Dogma, moi, ce tweet-là, je suis tombé dessus parce que c'est Nostalgic qui l'a transmis. Nostalgic est un grand fan de Dragon's Dogma et derrière, il pardonne tout à ce truc. Et c'est ce type de communauté qui va ensuite se mobiliser pour remonter les notes, les reviews sur PC. Bref, voilà. Je trouve. Monsieur Plouf, voilà, mais c'est vraiment pas pour piquer de toute manière le chien. Je l'ai dit que je connaissais pas. Moi, c'est un tweet qui est tombé. Voilà, l'algorithme, c'est un tweet qui a été quand même pas mal vu. Près de 1000 likes et tout. Voilà. Je valide, Sega, c'est une tuerie avec Pseudoness. Mais vraiment, il n'y avait aucune attaque sur Monsieur Plouf, hein. Je vous dis juste que je suis tombé dessus. Et moi, ça me pose problème, pas Monsieur Plouf, hein. Ça me pose problème, c'est ce type de mobilisation. Voilà. Bonne nuit à Nico. Bonne nuit. J'espère que c'est clair par contre, hein, sur le fait que il n'y avait aucune attaque personnelle sur ses créateurs. Comme je l'ai dit, moi je le connais pas en plus. Donc je vois pas pourquoi je l'attaquerais personnellement. Et en plus, il y a des jeux. C'est ça qui est triste, c'est qu'il y a des jeux qui n'ont pas ce genre de miséricorde. Typiquement, alors encore une fois, je sais que je vais me placer en marge de l'avis général, mais typiquement, ce jeu-là, qui a fêté ses 7 ans déjà. What? Incroyable. Mass Effect Andromeda, bientôt on va dire qu'il a 10 piges, c'est ouf. Donc le 21 mars, nous sommes le 22, hein, n'est-ce pas? Ouais, nous sommes le 22, donc hier, Mass Effect Andromeda a fêté ses 7 ans. Incroyable. Je vous lis mon tweet rapidement. Hein. Sorti le 21 mars 2017, il m'aura accompagné 6 mois à l'hôpital pendant une période difficile de ma vie. Je reviendrai dessus. L'un des jeux les plus sous-cotés de l'histoire. La take est posée. Une aventure qui m'aura marqué à vie. La take est posée. La plus grande injustice du jeu vidéo selon moi. La take est posée. Je sais, c'est des takes qui sont fortes, qui vont vous faire réagir, j'imagine, dans le chat. Ça va m'insulter, non? Vous êtes gentil, mais. Voilà. Mais. Je vais mourir avec ces idées. Mass Effect Andromeda, c'est une dinguerie. D'ailleurs, je trouve qu'à l'heure actuelle, avec la folie autour de l'intelligence artificielle, Mass Effect Andromeda revêt une résonance toute particulière. C'est presque un jeu visionnaire, Mass Effect Andromeda. Alors, je vous dis pas que l'intelligence artificielle n'était pas une réalité en 2017. Ça l'était bien avant 2017. Mais l'implémentation, enfin le traitement de l'IA que propose Mass Effect Andromeda est étrangement similaire à cette folie nouvelle que l'on a autour de Mass Effect Andromeda, de l'intelligence artificielle, pardon, ChatGPT, etc. Je vous ai partagé du coup cette artwork qui est le travail d'un fan qui s'appelle Lazare. Si vous êtes fan de Mass Effect, pas forcément Andromeda, mais de Mass Effect, vous devez suivre cette personne. Il fait des visuels qui sont absolument magnifiques, magnifiques. Donc là, on reconnaît la planète Habitat 7 avec du coup le prototype là des reliquats, les remnants. On a les rochers un peu voilà sans gravité. Enfin bref, c'est incroyable. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce week-end, j'allais mettre en pause. D'ailleurs, Cédric Coco a dit qu'il faisait la même chose. Dragon's Dogma 2, parce qu'il ne tourne pas de manière optimale, je vais attendre un patch. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me relancer sur Mass Effect Andromeda, parce que 7 ans plus tard, il est grandement le temps que je vous fasse cette vidéo que je vous ai tant promis, que je vous ai tant teasé sur Mass Effect Andromeda. Je vais l'écrire, je vais tout donner pour cette vidéo. C'est pas parce que j'y joue, je commence à y rejouer ce week-end, que cette vidéo sera disponible d'ici peu, parce que je vais tout faire pour qu'elle soit la meilleure vidéo possible et rétablir l'injustice, l'injustice plutôt, pour Mass Effect Andromeda. Voilà. Quel jeu. Encore une fois, quel jeu. Ouais, le podcast Sony vraiment bien. Après, je pense que Dragon's Dogma fait partie des jeux super longs, du coup, ça passe. Les micros, mais bon, c'est pas cool quoi. Je viens de le DL sur tes conseils, ça va partir dans le week-end. Top delay. Breaking news Insider Gaming. Quelle est la Breaking news Insider Gaming? Mass Effect Andromeda sur quel support? Faites-le sur PC. Ou si vous avez un. Merci Resdin, ça fait plaisir de lire ça. Et en plus, quand je lis les réponses, parce qu'en fait, ce jeu-là, c'est pour ça que ça m'a fait penser un petit peu à Dragon's Dogma. C'est qu'à sa sortie, il y avait des histoires, il y avait des histoires où le jeu il se faisait démonter. animation faciale, machin. Techniquement, ça a vite été, ça a très vite été, comment dire, patché et tout. Mais le bad buzz de départ, le jeu s'est fait démonter et en fait, il s'est jamais relevé de ça. Puis après, t'as eu des vidéos. Bah, je parlais tout à l'heure de Nostalgique, mais il a fait une vidéo mais dramatique sur le jeu, hein, où il parle de naufrage, il te le finit mais de A à Z, alors que il passe totalement à côté du truc. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi, je vais faire ma part du truc pour rétablir un petit peu la vérité sur Mass Effect Andromeda. On me demande s'il y a des livres à lire avant. J'en profite, hein. Si vous voulez vraiment être plongé dans l'univers d'Andromeda, il faut absolument lire La Révolte du Nexus juste avant de lancer le jeu. Vous allez apprendre ce qui s'est passé dans le Nexus avant votre arrivée. Et vous allez comprendre aussi pourquoi ils sont aussi choqués de nous voir arriver. Voilà. Et tous ceux, en fait, j'ai trouvé, hein, tous ceux qui l'ont lancé, ce jeu-là, finalement, il y en a plein qui l'ont fait plus tard. Vous voyez les retours, hein. Ça m'a fait super plaisir. Genre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Très cool. Je l'avais essayé à sa sortie, j'avais pas accroché. J'ai repris des années plus tard, loin du buzz initial, et j'ai franchement bien aimé. Voilà, même si pour moi, Shepard reste au-dessus de Ryder. Alors, je suis pas en train de dire que Mass Effect Andromeda, c'est meilleur que la trilogie, hein. Attention. Voilà. Marie Gameuse, vivement ta vidéo, je la regarderai avec plaisir. J'aime comme toi ce jeu énormément. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein qui me le disent. Et ça fait plaisir. Peut-être pas un chef-d'œuvre, mais j'ai adoré ce jeu. Enfin, il y en a plein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Véritablement une merveille qui explore avec une profondeur incroyable la relation entre l'homme et l'IA. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. C'est vrai, le jeu n'est pas parfait, mais quelle aventure extraordinaire il nous offre. Voilà. Je suis pas en train aussi de vous dire que le jeu est parfait, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce truc-là. Sans vous teaser, sans vous spoiler ma vidéo, mais ça permet de la teaser un petit peu. Voilà. C'est ouf. Et en fait, j'ai l'impression que la majorité silencieuse a plutôt beaucoup aimé ce jeu. Qui est très imparfait, hein. Très clairement. Mais voilà. Et donc, pour répondre à ta question, TKO, favoriser la version PC, parce qu'en fait, la version PC, c'est la seule version qui propose du 60 FPS. Et le gameplay est tellement bon, les gunfights et tout. Les combats sont tellement bons dans Andromeda, les meilleurs de la saga Mass Effect, hein, selon moi. Même c'est même pas selon moi, c'est assez clairement. Et donc favorisez la version PC parce que vous aurez la seule version en 60 FPS. Et d'ailleurs, si vous avez un Steam Deck, le jeu tourne en 60 FPS sur le Steam Deck et c'est magnifique. Donc voilà, favorisez la version PC. Si vous n'avez pas de version PC, favorisez la version Xbox parce que la version Xbox depuis la One X propose un patch 4K. Ce qui n'est pas le cas sur PlayStation, mais au moins vous pourrez le faire en 4K, même si c'est du 30 FPS, si vous n'avez pas de PC. Donc PC, Xbox, et puis sinon PlayStation, quoi. Tout simplement. C'est un peu rapide de parler de majorité silencieuse. Bah, j'ai pas de chiffres pour baquer, mais effectivement, je trouve que tous ces gens-là, on les entend pas parler sur Mass Effect Andromeda. Il suffit que je mette effectivement un message pour rameuter tous ceux qui ont un petit peu apprécié, mais tout ce qu'on entend plutôt, c'est pour descendre Mass Effect Andromeda. Pour moi, on est vraiment face à une majorité silencieuse. Oui, le sûr. Le monde s'en fiche de ce jeu. C'est pour ça. Bah, je suis pas d'accord parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais touché. Surtout en France, il y a comment dire, cette petite pique qu'on revoit souvent. Andromerda. La plupart des gens n'ont pas touché à ce jeu-là. Il y en a plein qui le disent. Ah non, j'ai jamais lancé. Non, non, c'est juste que j'ai entendu que c'était pas du niveau de la trilogie. C'était de la dôme, machin. Mais je l'ai jamais lancé. Il y en a plein. À chaque fois que j'en parle, qu'est-ce que t'as pas aimé dans Andromeda? Savent pas le dire. Oui, ce serait cool que tu nous expliques ce que tu trouves bien dans Andromeda. Bah, ça arrive. Je vais faire ça de manière posée, structurée, montée, réalisée. Et j'espère pouvoir ressortir mon, comment dire, vous donner mes sentiments de la manière la plus claire possible. Voilà. J'espère bien me faire comprendre. Quoi qu'il en soit, notre dernière news de la journée va me demander de vous mettre une vidéo, puisque à l'occasion. C'était quoi, la PAX East, la PAX West, je sais plus, bref. Yoshipi a donné une interview et a présenté le DLC final de Final Fantasy 16. Non, Sido, il n'y aura aucun spoil sur FF16. Ne t'en fais pas. Donc ce DLC s'appelle The Rising Tide. Alors moi, j'avais pas mal apprécié le DLC de qu'on a fait d'ailleurs entièrement en live sur la chaîne. On a couvert entièrement en live sur la chaîne le DLC, le premier DLC d'FF16. Et Cause of the Pa... Non, je sais plus. Je connais plus, je me souviens plus du nom. Bref, j'avais bien apprécié parce qu'en fait, dans tous les Final Fantasy, vous savez, vous avez cette sur la partie finale, vous avez ce tunnel de boss souvent comment dire facultatif. Voilà, c'est un truc que vous pouvez faire en plus, pas forcément obligatoire, mais quand même conseillé. Et c'est ce qui ça manquait cruellement dans FF16. Voilà, je suis désolé, c'est le seul spoil que je vais te donner, Thibaut. Si tu fais le jeu version vanilla, t'auras pas ce tunnel de boss final qui fait plaisir à tous les fans de FF. Et en fait, c'était un petit peu fanservice, ce DLC d'FF16, puisqu'il te donnait, lui, justement, ce tunnel de boss. Et moi, j'ai surkiffé parce que le challenge, notamment le boss final, il était franchement difficile. Franchement. Et j'ai kiffé parce qu'en fait, le jeu, malheureusement, FF16, je lui avais roulé dessus. J'avais vraiment roulé dessus en mode automatique, et ça m'avait saoulé. Enfin, vraiment, il y avait, moi, ce que j'aime dans les FF, c'est toute cette partie stratégique, c'est toute cette partie avant le fight. Comment je vais aborder mon fight pour pouvoir le réussir? Ça, on le retrouve dans FF7 Rebirth. Dans le 16, il y avait absolument pas. C'était vraiment le jeu en mode automatique, tu suis l'histoire, t'as des cinématiques, ouais, super, c'est beau, c'est cool. Ça s'arrête là. Avec ce DLC, ils ont quand même rajouté ce truc-là. Donc ça faisait très fan service, mais j'avais déjà beaucoup, apprécié ce DLC. Maintenant, ce second DLC de Rising Tide, je l'attendais énormément. Et en fait, d'ailleurs, j'ai tellement aimé le premier DLC que je m'étais dit que j'allais en fait tout simplement. Alors attendez, hop, j'allais tout simplement me refaire le jeu à 100%. Vraiment, je voulais vraiment le faire. Ça fait des semaines, des mois que j'ai envie de me le refaire à 100%. Et là, je me suis dit, en fait, j'attends le prochain DLC. Et The Rising Tide, je suis désolé, hein, je fais un peu de teasing, mais The Rising Tide arrive, ça y est. Il arrive. Merci à Bionic Cityverse Gaming. Vous avez vu, il veut pas que je vous donne la date, en fait. Mais je vais vous la donner. Il arrive le 18 avril. 18 avril prochain, on a The Rising Tide. Je suis très content. Et pour la version PC, on a eu de la part de Yoshippi un très évocateur soon. Voilà. Bientôt. Je sais pas jusqu'où ils vont pousser cet exclu PS5. Pour moi, le deal, je pense, hein, ce qui se passe, c'est que PlayStation souhaite avoir quand même un petit plus, on va dire. Un petit kickstart, une petite avance au niveau du DLC. L'avoir également en exclu. Et un peu plus tard, du coup, ressortir toute la version complète sur PC une fois que PlayStation a réussi à redynamiser un petit peu les ventes d'FF16 grâce au DLC. À ce propos, alors qu'on a eu une communication officielle d'FF16, on n'a toujours pas de chiffres de vente actualisés. Donc je pense, après c'est mon avis, hein, que c'est pas si satisfaisant que ça pour Final Fantasy 16. Voilà, donc The Rising Tide, ça arrive le 18 avril sur PS5, et moi, je voulais attendre la version PC, en fait, pour me le faire à 100%. Bah, en fait, je vais tout simplement pousser ma partie PS5 à 100%. Je vais le refaire à 100% sur PS5, parce que j'en peux plus, j'ai vraiment envie de jouer. J'aime beaucoup, je sais qu'il est très loin d'être parfait. Celui-là, il est vraiment très très loin d'être parfait. Pour moi, c'est un très bon jeu, c'est même pas un excellent jeu, mais j'aime beaucoup, je sais pas. J'aime beaucoup Final Fantasy XVI, et je suis très content de le retrouver. Donc je vous montre les images de Rising Tide. C'est le DLC du coup de Final Fantasy XVI. Ça arrive le 18 avril.
Calling us. None other than Shiva. Herself.
J'essaie de vous centrer tout ça, désolé. Voilà.
But he deserves a better fate than the one my people forced upon him.
Je suis mort, les musiques ils tapent vraiment fort. Hein. Ils sont pas là pour rire, les mecs. Hein. Attendez. Oh non, réentendre, réécouter ça, la voix du mec. Là, je vais pas spoiler hein, pour Thibaut, pour ceux qui n'auront pas fait le 16. Mais juste réentendre la voix du mec me rappelle pourquoi j'aime pas ce jeu finalement. Je suis désolé, je suis bipolaire, mais non. En fait, il y a des trucs qui m'attirent dans ce jeu. L'histoire, la conception, la DA, l'immersion, les cinématiques qui sont magnifiques. Il y a des trucs qui m'attirent dans ce jeu. Mais t'as d'autres trucs. Oh là là, quelle horreur. Genre lui, là, oh là là, mais non. Quelle horreur. Ça, ça a l'air d'être un mode battle, mais extrêmement. J'allais dire nerveux, mais tous les gunfights d'FF16 sont extrêmement nerveux. Mais en tout cas, du challenge, The Rising Tide. Rise, FF16. Wow. Qu'est-ce que j'aurais adoré un open world où je peux me balader librement là-dedans. Mais imaginez, en fait, c'était ça mon rêve. Le monde de Valistea en open world. Genre comme Dragon's Dogma 2. Avec quand même du fast travel, s'il vous plaît. Et pas payant, et pas 1,99€ par fast travel, s'il vous plaît. Parce que le jeu, il est magnifique. En fait, quand je parlais du monde, ce qui m'attire, enfin, ce que j'aime, quand je parle du monde, je parle pas de la conception en termes de jeux vidéo. Ça, elle est absolument horrible. Ça, c'est 0 sur 20. Je vous le dis. La take, elle est claire. Mais c'est la conception du monde dans le sens où, tu vois, un truc où tu pourrais t'immerger comme quand tu lis un livre. Comme quand tu lis Game of Thrones, par exemple. Tu vois, j'avais déjà en tête, j'ai toujours eu en tête, en jouant à FF16, les forces en présence, les royaumes, les cultures, ce genre de trucs. La conception du monde, tu vois, ça, je l'avais. Et ça m'a marqué, ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans FF16. Par contre, la conception du monde en termes de jeux vidéo, de développement, ça, elle est catastrophique. Et ce jeu-là, en open world... En fait, je demande pas un open world pour l'open world, je m'en fous. Je m'en fous, moi, que ce soit un open world ou pas. Moi, j'aurais aimé un open world juste pour pouvoir m'immerger, juste pour pouvoir avoir ce côté voyage. Ce côté, en plus, FF16, alors c'est pas un spoil, c'était dans les communications, c'était dans les previews et tout, t'inquiète pas, Thibaut, mais on joue le personnage principal, donc Lifestrife, à différents moments de sa vie. C'est un vrai parcours initiatique. Un vrai voyage initiatique qu'on a dans Final Fantasy XVI, et j'aurais adoré pouvoir le vivre, mais en fait, réellement, du début à la fin, open world, je m'amusais, machin, ça aurait été fou, oh là là, ça aurait été fou. Au final, on a une structure, mais on dirait un jeu Dreamcast, un jeu PS2, couloir, t'avances, enfin... Moi, je vois un château au loin, mais c'est le rêve de pouvoir t'avancer, t'approcher. Et c'est ce que j'ai vécu, justement. C'est pour ça que j'ai aimé Dragon's Dogma 2. On l'a pas eu, c'est dommage. Les zones sont magnifiques. Et donc, en fait, là, c'est une toute nouvelle zone. Hein. sorte de jungle luxuriante. Waouh. Mais ça, c'est The Rising Tide, mais arrêtée. Elle est arrêtée dans le temps. Je découvre avec vous, hein. En fait, moi, je vous avoue, j'ai vu le trailer qu'on a vu ensemble, là, juste avant, de 2 minutes. Là, les images de gameplay, je les découvre avec vous. La cascade, c'est magnifique. Et le sound design aussi, vous entendiez, là? Vous voyez, moi, c'est ce genre de voyage que je veux. En plus, ils communiquent dessus. Sauf qu'on sait très bien que ça va pas être une grande zone. Ça va être un couloir à parcourir, et ça, c'est dommage. C'est presque de la publicité mensongère. Ah, le Tom Berry! Mais en fait, ils ont vraiment compris comment me parler à moi. Avec cette succession d'images où Clive il se balade dans le monde. C'est exactement ça que j'aime moi dans FF16. Merci à TKO. Mettez des GG dans le chat s'il vous plaît pour TKO. Qui a pris un café. Quel plaisir. Ouais, peut-être sur... Bah, j'adorerais un FF17. Ou bien un FF16... un FF16-2. Moi, je trouve qu'ils ont... En fait, ils ont déjà posé les bases. Enfin, ils ont posé les bases d'un monde, d'un lore, qui est à exploiter. Ce serait dommage que ce soit exploité sur un seul jeu. Après, bien évidemment, il y a une réalité commerciale derrière. Qui fait que, en plus, on a vu aujourd'hui la communication officielle sur FF16, ils parlent toujours pas des ventes. C'est un peu inquiétant. Ok, donc via la stèle, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça c'est le mode de combat. Oh, avec à l'ancienne. Ouais, voilà. Un petit côté classique. Ah non, mais c'est FF1 là. C'est incroyable. Ok, donc ça en fait c'est un mode un peu à la ce qu'on a là dans les The Last of Us partout là, remaster. C'est les petits modes de combat qu'on a, bah voilà. Ils appellent ça Circle. C'est ouf. J'aime trop. L'UI, j'aime trop. Les petits bruitages à l'ancienne. Merci TKO. La réhabilitation de 16 qui va doucement commencer, vous verrez, on en reparle dans 10 ans. J'espère, Brian. Ça sent la nouvelle fin. Et salut à toi, Ryan. So each circle is comprised of 3 waves. To maximize your score, you'll need to choose when and where to use your abilities, as also which boons. Bah, j'espère. Après, comme je disais, derrière, il y a la réalité commerciale. Malheureusement. Qui est sans pitié. Il va falloir que le jeu ce soit il soit super rentable, qu'il soit sûr de leur coût. Moi ce que j'espère, c'est que la sortie PC va donner un vrai coup de boost à ce jeu. Et que derrière, enfin je serais le plus heureux du monde si on balance, on valide un projet FF16-2. Ouais, donc voilà, tu rentres dans une faille et t'as des trucs de circle, tu fais les combats là. Next circle. Ok, donc ça en plus, pour les tryharders comme nous, c'est top. On va se régaler. On va littéralement se régaler, je veux juste qu'on se remette le moment où Clive se balade dans Valistea. Peinard. parce que c'est typiquement le genre de truc que j'aime. L'autre point, bah, je crois que je l'ai pas mentionné tout à l'heure quand je disais les points forts de FF16, mais l'OST. En fait, quand j'ai fait le DLC d'FF16, ce qui m'a donné envie de le refaire, du début à la fin, c'est l'OST. Juste ça, j'ai entendu ça, je dis purée, c'est bon. C'est bon, je le refais depuis le début. Juste un petit combat qui avait rien à voir, enfin, qui payait pas de mine, c'était un petit combat comme ça. On veut 16-2. Et si c'était une zone un peu plus ouverte, celle-là? Puisque ça a l'air d'être une toute nouvelle zone. On rappelle aussi, alors moi je l'ai pas vu parce que j'ai pas suivi le panel, et là ils en ont pas parlé dans la vidéo que je vous ai retrouvée, du coup. C'est Brian qui m'a dit ça aujourd'hui, qui vont ajouter pas mal de trucs de quality of life. Par exemple, vous avez vu sur FF7 Rebirth, la moindre petite quête annexe, la moindre petite mission secondaire que vous allez faire, le moindre petit point d'intérêt sur la map, vous pourrez utiliser un voyage rapide dessus. Et ben ils vont faire pareil, ils vont ajouter ça dans FF7, ça va être génial ça. Pour pouvoir justement, je pense même pour ceux qui font le 100%, qui veulent faire toutes les quêtes, etc. On va gagner énormément de temps. Parce que de toute manière, on le rappelle, malheureusement comme c'est pas un open world immersif qui pousse sur le roleplay un peu à la Dragon's Dogma, eh bien, naviguer dans le monde, c'est pas non plus... c'est pas très ouf. Très clairement. Faut le dire, c'est pas ouf, c'est même mauvais. Et bah, on va gagner du temps en juste utilisant le fast travel. Chut. Ok, j'ai une mission annexe qui est à côté d'une mission... qui est pas très loin d'une mission annexe que j'ai réalisée plus tôt. Et bah, j'ai un point de... j'ai un point vers lequel je peux me TP. Ils vont rajouter ça, ça va être super. Les points de TP, je pense que ça va être super. Wa alaikum salam Hakim, merci à toi aussi. FF16, on est en mode FF16, tu verras. En faisant les NG+, le gros défaut du jeu au final, c'est qu'on débloque les trois quarts des pouvoirs dans la dernière ligne droite, mais quand tu les as dès le début, tu t'amuses comme un petit fou. Ouais, bah alors, moi j'ai déjà fait un NG+, hein. J'ai lancé le mode Final Fantasy, puis après j'avais arrêté. Je crois que c'était un boss fight, j'ai commencé à galérer. Donc pour quelqu'un qui se plaignait de la difficulté, je commençais à galérer, j'ai lâché l'affaire. Mais ouais, je m'amuse, franchement je m'amuse de fou. Mais là je pense que je vais le refaire depuis le début. Je veux vraiment, même la partie que je sautais d'habitude, là, qui était dans la démo, le tutoriel, là, je vais le refaire. Je veux revoir Clive gamin et tout, non, je veux vraiment le refaire. Ouais, enfin, le jeu va avoir un an, là, faut pas tarder pour la sortie PC, et pas le mettre à 80 balles, sinon ça va pas se vendre. Bah, je pense que ça va être ça, hein, Thibaut. 80 balles day one. C'est dommage, c'est un beat'em up. Oui, bah alors, niveau combat, par contre, ça a plus rien à voir. Alors, il y a un truc très simple qui pour moi déjà pourrait grandement faire remonter le système de combat d'FF16. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ce que j'aime dans les Final Fantasy, c'est de pouvoir avoir ce côté stratégique pré-combat pour pouvoir réussir tes combats. Alors il y a un truc très simple, enfin je dis très simple, après ça s'implémente, il faut... ça change tout finalement, ça change toute la méta. C'est pas si simple que ça. Mais je veux dire, un truc qu'ils font depuis longtemps, c'est... les dégâts élémentaires. Sérieux, dans FF16, ils te font des toute la partie visuelle, elle est là. Et elle est bluffante. Le jeu est beau, hein, au niveau des... Enfin, le jeu est beau. Il est flou, etc. Enfin, il a... c'est un jeu square, c'est... Voilà. Ils sont pas à la pointe de la technique, hein, actuellement. Mais je veux dire, au niveau des effets visuels et tout, c'est assez dingue. On regardait tout à l'heure les combats, enfin, regardez, ça pète de partout. On a des effets de glace, de feu, de machin. Vous voyez, ça part, il y a les couleurs et tout. Sauf qu'il n'y a absolument aucun dégât élémentaire. Vous pouvez envoyer du feu, de la foudre, tout ce que vous voulez. Et en plus, au niveau des primordiaux, du coup, ça fait plus aucun sens. Hein. Phoenix, il a beau cracher du feu, ça me fera pas plus mal que de la foudre, du vent ou de la glace. Ça, c'est dommage. Franchement, je pense que s'ils avaient juste rajouté ça, parce que le système de combat, en soi, il est bon. C'est juste que le côté stratégique, il n'existe pas dans le système de combat. S'ils avaient juste rajouté ça, et encore une fois, je dis juste avec de grosses guillemets parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça change toute la méta de rajouter des dégâts élémentaires, mais pour moi, on devrait même pas parler de rajout. Ça devrait être là de base, ça devrait être là, vraiment la, le primordial du truc. Voilà, pour moi, vraiment, un RPG qui a pas de dégâts élémentaires, c'est problématique. Un jour, on aura FF comme Rebirth avec la technique du 16, purée. Par contre, ouais, les cinématiques du 16, c'est incroyable. Franchement, faites-vous un let's play, hein. Les vidéos, le film du jeu, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. 60 balles avec les deux DLC d'inclus, le jeu se vendra bien. Moi, je pense qu'on sera sur du 80 balles avec les deux DLC, donc justement ça. Pour Square, ils vont se mettre dans une position où oui, ok, c'est 80 balles, mais en vrai, on les justifie parce qu'on vous met les deux DLC dedans, alors que sur PS5, c'était 80 balles plein pot et sans DLC. Voilà. Trop de cinématiques sont inutiles et sans intérêt. Moi, j'ai bien aimé le voyage, me poser devant un film. J'ai bien aimé. Après, il y a certains passages quand même qui m'ont sorti hein, de l'histoire. Hein, je pense à... Bon, je vais pas spoiler pour Thibaut, mais la maman, ce qui lui arrive plus tard et tout, enfin... J'ai trouvé ça tellement rompiche, tellement raté, en vrai. Tellement téléphoné, tellement... Tellement Game of Thrones de Wish-like. Surtout ce personnage-là. Mais je vais pas spoiler. Mais au-delà de ça, enfin, le boss final, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, là. Sa voix, là, on dirait... Je sais pas, il sort d'où, mais on dirait une fanfiction. Le boss final, c'est une fanfiction, c'est pas possible. Ouais, ça c'est vrai. L'acting est incroyable. J'avais son nom là. L'acteur qui joue Sid, mais quel boss! Quel boss absolu! Il est dans Diablo 4 en plus, Sidonia. Et c'était mon personnage préféré dans Diablo 4 juste pour sa voix. Mais il a... enfin, en fait, le casting anglais de FF16, franchement ils ont mis les moyens, c'est très 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 lourd, et c'est pour ça d'ailleurs que de la bouche même des créateurs nippons d'FF16, la vraie VO, celle dans laquelle le jeu doit être vécu selon eux, c'est la version anglaise et pas la version japonaise. Pourtant le jeu de base, il est d'abord écrit en japonais, il est créé par des japonais. Mais il pousse vraiment à ce que les joueurs utilisent la version anglaise, parce que franchement le doublage, il est incroyable. Le doublage est incroyable. Ben Starr était à la PAX East cet après-midi. Mais en fait, je vais la regarder. Hein. Je vais tout simplement regarder toute la conférence. Alors je vais pas vous l'infliger, mais je vais la regarder entièrement, voir ce que j'ai manqué. Voilà, 1h17 de panel. On aurait pu se la regarder, en fait. C'est la chaîne officielle de Square Enix. En vrai, on aurait pu se la regarder. Bon, on se la garde sur le coude. Il est minuit, les amis. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. 9 minutes que j'attends des mates pour un assaut FF14. Purée, je lance FF14, Sidonia. Je crois qu'on va passer sur Discord. Hein. Ouais, c'est le premier et seul FF pensé d'abord en anglais. Tout à fait. Tout à fait, Brian. Bon, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de parler d'FF16. Si vous aimez d'ailleurs Final Fantasy, on va se retrouver très rapidement là, enfin dans la semaine, pour l'émission Divul Café. Voilà, le Divul Café. Full spoiler sur FF7 Rebirth. J'y pense parce qu'il y a Brian dans le chat et je le veux sur cette émission avec Yannick et probablement Eikonimi. Et tous ceux qui voudront passer, qui auront déjà terminé FF7. C'est une émission qui me démange depuis un moment, mais je voulais quand même laisser le temps aux joueurs de le terminer, parce que c'est vrai que moi j'ai eu la chance de l'avoir avant. Mais voilà, vous l'avez eu à la sortie, et je trouvais que c'était pas très cool de faire une vidéo spoil, même si vous la regardez pas quand même, faire une vidéo spoil, en mode ouais nous on l'a terminé, voilà, c'est pas très cool, donc j'ai attendu pas mal, ça va faire presque un mois, je pense que c'est le bon moment pour dégainer, voilà, et j'ai envie de parler d'FF, donc voilà, si vous voulez du FF, il y aura une émission full spoil d'FF7 Rebirth. Ouais, bah prends ton temps, Christophe, prends ton temps, tranquillou. Vous passez une très belle nuit, je vous dis à lundi, moi je vais me reposer ce week-end. Je vais voir si je peux vous faire une vidéo dans le week-end. J'essaye. Sinon, on se dit à lundi tranquillement. vous prenez soin de vous. Bon week-end, reposez-vous bien. Moi, je vais bien me reposer. Vraiment, je vais suivre mon conseil. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Désolé pour les petits problèmes techniques. Merci, vous êtes encore plus d'une centaine là, alors qu'il est minuit passé. Ça fait plaisir. Alors, je suis désolé. Le petit blabla du youtubeur, vous connaissez, mais c'est pour pousser la chaîne. Si vous n'avez pas mis le like, pensez-y. Si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Et si vous voulez pousser le soutien encore plus loin, vous avez tous les liens qui vont bien dans la description, avec le Patreon. En plus, si vous prenez un abonnement de Patreon, vous, en fait, c'est comme si vous avez un jeu gratuit, hein, puisque vous avez Maze. Et en plus de ça, j'offre tous les mois des jeux, surtout sur PC, parce qu'en fait, c'est les jeux qui sont issus du Humble Bundle auquel je suis abonné. Et je fais profiter en priorité les membres Patreon, mais aussi ensuite tous ceux qui sont abonnés de manière totalement gratuite à la chaîne YouTube. Mais bon, d'abord en priorité les Patreons, parce qu'il faut bien leur donner aussi un petit plus à eux. Voilà, bon week-end, bonne nuit, merci à tous, bye bye, ciao, salam alaikum.